Ce 10-10 vous est proposé par le musée Parcelles 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Plongez-vous dans une expérience inédite au cœur d'un lieu unique et vivant où l'art urbain se crée, se transforme et se transmet. Exposition, atelier, rencontre avec les artistes, librairie. Vous avez rendez-vous au musée Parcelles 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.
Et bonjour chers auditeurices et bienvenue dans ce 10-10 du mercredi 7 janvier. C'est mon retour, donc Nathalie sur les ondes pour présenter cette matinée avec vous. Et je ne vais pas être seule et vous allez retrouver peut-être une voix que vous avez écoutée il y a un petit bout de temps, il y a 2-3 ans je pense. Aujourd'hui on va plonger dans un univers fascinant, la rencontre entre les médias et la littérature. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir et de retrouver Aliénor Poitevin. Bonjour Aliénor, qui est doctorante passionnée par la façon dont les histoires circulent et se transforment en écrit et médias. C'est beau hein, ce que j'ai écrit là.
J'adore.
Aliénor, bonjour et merci d'être avec nous et de revenir sur les ondes de Radio FM+. Bien qu'on peut se tutoyer peut-être.
Avec plaisir.
Bien que tu n'en étais jamais loin, parce que tu nous as laissé des héritages, hein, la parenthèse Docteur Radio, qui a changé,
qui a changé en
parenthèse, parce que bon, on trouvait qu'à l'époque, ça faisait un peu émission médicale. C'est pour ça qu'on avait changé ce Docteur Radio, parce que docteur, on pense d'abord au toubib avant de penser au docteur comme toi, au doctorant.
Et je suis ravie que l'héritage de Docteur Radio ait été repris par le merveilleux
groupe Guilhem. Ouais.
Qui s'en sort toujours très
avec
bien.
Avec son équipe, et c'est une émission très dynamique. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est le premier mercredi de chaque mois, si vous voulez l'écouter. Voilà. Sinon, vous allez sur notre site, tout nouveau, tout neuf, qui a quelques mois, et vous aurez bien sûr, les podcasts de la parenthèse enchantaise, et puis tout ce qu'il faut savoir sur le groupe. Aliénor, je propose de te représenter un petit peu, parce que si on a entendu ta voix il y a quelques années, il y avait encore Rija, pendant les matinales animées par Rija. Ça fait un an ou deux qu'on t'entend peu ou moins. Est-ce que tu pourrais déjà nous parler de ton parcours de... Aujourd'hui, tu as 28 ans, c'est ça que tu m'as dit ?
Tout à fait.
Voilà. Tu es une jeune femme. 28 ans, c'est une jeune femme. Tu es de 97 alors ?
C'est ça, ouais.
De quel mois ?
De juin, je suis un petit cancer.
Tu as l'âge de ma fille, alors c'est très bien. 97, c'est une très belle année. Bon, on est là pour parler de toi et ton parcours voilà, jusqu'au doctorat et jusqu'à cette passion que tu as trouvée pour les médias et la littérature.
Bah écoute, avec plaisir Nathalie. Effectivement, si je n'étais pas revenue à la radio l'année dernière, c'est parce que j'étais à l'étranger dans le cadre de ma thèse. Mais alors pour ça, repartons aux racines. Donc j'ai fait mes classes prépa à Saint-Maur-des-Fossés dans le 94 avant d'arriver à Montpellier pour le master. Donc j'ai fait un super master de recherche ici. J'ai enseigné comme professeur dans le secondaire au lycée Mermoz, que vous connaissez peut-être, cher auditeur, chère auditrice. Et puis, donc, ce sujet de thèse qui est venu assez naturellement, puisque dans mon master de recherche, je travaillais déjà sur la presse avec le journal Gilles Blas, un quotidien de la Belle Époque. Et alors, pour l'anecdote, c'est mon père qui n'a pas fait d'études en littérature hein, particulièrement, mais qui est passionné par mes recherches et qui, pour Noël, m'achète, quand j'étais en master, en première année, une collection du Gil Blas illustré. Alors le Gil Blas illustré, ce n'est pas le Gil Blas quotidien, c'est le supplément hebdomadaire qui était une espèce de périodique subsidiaire hein, du Gil Blas.
Ça ressemblait à l'illustration, grand format ou
tout à fait, grand format, c'est une carto avec de belles illustrations en couleur, c'est un très 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 beau format. Il y a des partitions de musique en dernière page.
D'accord.
Donc, de partitions du Chat Noir, on y reviendra. Et donc, moi, très, très embêtée, je me rends compte qu'il s'est trompé, mon pauvre papa, en me prenant un supplément plutôt que le quotidien. Donc, au dernier moment, je rajoute une partie dans mon mémoire sur ce supplément. Ma directrice me dit « Bingo, on a un sujet ». Et c'est devenu mon sujet de thèse, les suppléments des grands journaux parisiens.
C'était, moi, le seul que je connaisse, c'est l'illustration, parce que d'une famille ruinée, mais bourgeoise à la base, j'avais encore des reliures, tu sais. Une ou deux collections d'illustrations reliées. Je ne connaissais que ça, mais Gil Blas était à l'époque aussi connu, reconnu que l'illustration. C'était un journal très diffusé, déjà.
On sait que pendant l'entre-deux-guerres, il y a beaucoup de mémoires d'hommes de lettres, de journalistes, qui parlent de leur éducation qui a été faite, éducation artistique qui s'est faite à travers les lectures enfantines du Gil Blas illustré. Mais effectivement, hein, tu fais bien de le noter, on a toujours un rapport finalement très émotionnel aux vieilles revues, aux vieux journaux. Moi, je sais que chez mes grands-parents, je lisais Fillette.
Oui, bien sûr.
Alors, c'est une autre époque, hein, mais je reste très, très, très marquée de ces lectures. Je me souviens qu'il y avait une publicité pour fumer des cigarettes à l'eucalyptus pour soigner l'asthme.
Des espèces de petits bidises. C'était la particularité des suppléments, c'était quoi, Aliénor ?
Alors, les suppléments littéraires, moi, je trouve que c'est vraiment une espèce d'ovni dans le champ médiatique de la Belle Époque. Belle Époque, on rappelle, hein, c'est fin 19e, début 20e. C'est un moment de modernisation de la presse. Il faut vraiment imaginer, on n'a pas encore la concurrence de la radio, de la télé. Et on va avoir donc des journaux qui vont commencer à atteindre le million d'exemplaires quotidiens, hein, vers 1890-1900. On a ce qu'on appelle les quatre grands qui publient chacun à un million d'exemplaires, qui sont diffusés dans toute la presse. On a le désenclavement des régions avec le plan Freycinet. Donc on a les trains qui circulent partout en France.
On a une bascule culturelle aussi. Hein.
Enfin, bascule culturelle,
je dis architecturale, c'est l'art nouveau. En musique, c'est l'arrivée de la musique, même avec Debussy, etc., Ravel, des sonorités qu'on ne connaissait pas au siècle précédent.
Ah bah, c'est une période qui est extrêmement riche, puisqu'on a eu les lois sur l'éducation, les lois Ferry, en 1880. Et effectivement, on se retrouve avec une tonne de jeunes, de jeunes qui ont eu accès à une éducation, qui sont assoiffés de gloire, qui sont assoiffés de reconnaissance et qui débarquent à la capitale. Et donc, d'un point de vue artistique, culturel, ça va être extrêmement riche. Et alors, dans ce milieu-là, où on a donc la presse très modernisée, étendue dans toute la France, où on a l'art dans toutes ses disciplines, qui est son acmé, on a le supplément littéraire qui est un petit peu dans l'entre-deux. Puisque d'un côté, on va avoir les revues d'avant-garde, réservées à l'avant-garde, c'est Mallarmé, c'est Moréas, etc. Et de l'autre côté, on a cette grande presse quotidienne, populaire, qui est destinée au peuple. Mais ces grands journaux, puisqu'ils se tournent vers la modernité, ils se tournent vers l'information, vers l'actualité, il y a des écoles de journalisme qui commencent à émerger, ces grands journaux, ils vont lancer des suppléments littéraires, illustrés, hebdomadaires, qui vont quelque part être une manière de conserver une identité culturelle sans s'en détacher complètement.
Et avec quelque chose de plus populaire, parce que c'est marrant, parce que la question suivante que je voulais te poser, c'était sur les revues, justement.
Oui.
Et bon, évidemment, entre les deux guerres, c'est le début de la NRF, mais il y en a plein, plein. Oui, c'est Paulhan, tout ça, c'est la fin des années 30, je pense.
Oui, tout à fait. Ouais.
L'arrivée de Gallimard, etc., sur le marché. Mais la revue, même avant, je pense aux frères Goncourt, je crois qu'ils en avaient une aussi. C'est quand même assez élitiste.
Ah, mais complètement.
Alors que le supplément aux journaux, j'ai l'impression moins.
T'as tout compris, c'est exactement ça. C'est que c'est une espèce de contradiction, ce supplément littéraire, puisque à l'époque où on a toute cette émergence des petites revues, les petites revues, c'est un entre-soi, c'est un repli, en tout cas, on a un ethos, une affirmation de repli sur soi, de la littérature, dans ces petites revues, où on s'adresse à un entre-soi artiste. Y a plein de raisons, hein, à cette position de repli, qui souvent est plus une position qu'autre chose. Et donc, effectivement, c'est un peu élitiste, et les symbolistes, et ils seront d'ailleurs vachement critiqués sur cet aspect-là, d'être un peu dans un langage autarcique, très poétique, très ciselé, mais incompréhensible. Alors que justement, les suppléments littéraires, il y a un côté très vulgarisation. On va essayer de donner, un journal dit, ce sont 4 pages de la meilleure littérature. On va faire un best-of. Moi, j'appelle ça un best-of, le supplément. On va donner des extraits à la fois de classiques qui sont déjà reconnus, style Victor Hugo, et à la fois, on va donner des morceaux de l'avant-garde, mais pas l'avant-garde la plus obscure. On va donner un morceau d'avant-garde plutôt sympa, plutôt lisible. Et donc justement, il y a
qui est-ce qui se retrouve justement alors dans cette avant-garde ?
Oh, on a absolument tout. Hein. C'est Jean Moréas. On a Villette, hein, qui tient par exemple, c'est rigolo. On a Villette, Adolphe Villette. C'est le directeur de la revue du Mercure de France, la célèbre revue du Mercure de France. Et en même temps, c'est le directeur du supplément de l'Écho de Paris. Et c'est la même année, tout ça. Et il va avoir ces deux casquettes. Et dans le supplément de l'Écho de Paris, il va lancer des concours d'écriture où les gagnants seront grassement payés. Finalement, c'est de l'entre-soi, puisqu'il va faire gagner que des symbolistes, que les copains. Mais ça va permettre de vulgariser et de faire découvrir au grand public de l'art, grand public. Bah, par exemple, Alfred Jarry, l'auteur de Ubu Roi, il a été lancé grâce au concours d'écriture du supplément de l'Écho de Paris.
D'accord.
Puisqu'il était ami avec Valette. Vous voyez ?
Et il y avait aussi, encore, je pense, c'était la période du feuilletonnage. C'est-à-dire dans les journaux, alors là, les quotidiens, ce que tu appelais quotidien au début, pas les suppléments, mais il y avait encore beaucoup de feuilletonnage.
Ah oui, c'était une pratique très courante, mais qui était plutôt réservée justement aux journaux populaires, à ce stade, où on allait le retrouver effectivement dans les grands journaux comme Le Matin, etc. Donc, les journaux un peu plus élitistes, littéraires, style Le Figaro, Le Gil Blas, etc., pouvaient continuer d'avoir des feuilletons, mais ce n'était pas le centre de leur production littéraire. puisque souvent, tout ce qui était feuilletonnage était considéré par le fait d'écrivains populaires qui, du coup, étaient dévalués dans le champ littéraire. C'était genre Jaunet. Il y avait des blagues sur Honnet. C'était « on fait du Honnet », c'est comme aujourd'hui dire « on fait du Guillaume Musso ».
D'accord.
Les choses se répètent.
Les histoires se répètent, oui. Et c'est vrai que je voudrais revenir un peu vers toi, parce qu'on sent à quel point tu étais passionnée. Quand on se parle au téléphone, nous deux, il faut qu'à un moment on dise « bon, on raccroche », parce que sinon...
c'est vrai.
Mais qu'est-ce qui... on a compris qu'au niveau de la jeunesse, le milieu socioculturel dans lequel tu es née, par exemple, il était porté déjà, les littératures ? Il y avait des livres chez toi, beaucoup, ou pas du tout ?
Il y avait une chouette bibliothèque chez mon père, effectivement, mais personne n'a fait d'études en littérature, a fortiori pas de doctorat non plus. Donc je serai la première docteure, peut-être, dans un an ou deux de la famille.
On va aller te soutenir pour ça. Quel est le hasard on a compris ce cadeau de ton papa, qui t'a emmené là-dessus, mais tu avais déjà, en troisième, en seconde, pour le bac, la passion pour la littérature, forcément, pour l'écrit, pour le mot.
Alors, moi, comment c'est parti ? Je pense que pour moi, d'abord, lire, c'était une activité d'adulte.
Ouais.
Et quand j'étais petite, j'avais envie de faire l'adulte. Alors, lire, c'était une manière d'être visible aussi, je dirais. J'ai deux frères. Alors, vous savez, quand on est au milieu, la cadette, et qu'on est une fille...
Il faut exister.
Il faut se faire sa place, n'est-ce pas ? Et donc, moi, c'était en étant la bonne élève, en étant la grande lectrice. Et puis, à un moment donné, je me suis fait vraiment emporter par tout ça. Donc, je me souviens, je lisais des livres, j'y comprenais pas grand-chose, forcément. Je me souviens très bien d'avoir lu un bouquin de Tolkien sur les fées à 8 ans. Je lisais rien, je n'y comprenais rien, mais je continuais.
Et qu'est-ce qui plaisait alors, justement ? Parce que moi, je me rappelle de Tolkien, je l'ai lu tôt. J'ai lu aussi le Baron Perché d'Italo Calvino, j'ai lu très jeune.
Pareil.
Les Contes de la rue Broca, mon père, en plus, il était copain écrit Paris, donc il m'a donné ça. Moi, j'avais un père libraire. Donc là, j'avais accès.
Le milieu était là, oui.
Ça aidait. Et après, j'ai plus du tout lu entre 12 ans et 18 ans, à son grand, grand désespoir.
Mais c'est bien courant, ça.
C'est vraiment lâché. On est souvent poussé par le livre. Et qu'est-ce qui te plaisait dans le fait de lire et de ne pas tout comprendre, mais le plaisir de lire, le plaisir des mots, la poésie des phrases aussi, par exemple, c'est quelque chose qui t'interpellait ?
Pour moi, c'était plutôt le côté très autarcique de la lecture. C'est de rentrer dans quelque chose et en un claquement de doigts, on rentre dans un univers. Et je me souviens que j'avais cette faculté que j'ai beaucoup moins aujourd'hui de lire quelques lignes, et puis d'un seul coup, le bruit s'atténue tout autour, et on est dans une espèce de bulle de lecture, je ne sais pas. C'était quelque chose qui m'a toujours beaucoup apaisée. J'étais une gamine très timide.
Et ton rapport, donc on parle beaucoup littérature depuis le début de l'émission, mais avant de marquer notre pause musicale, je voudrais que tu nous parles aussi des médias et de la presse, parce qu'ici, tu nous parles de quelque chose de très... la presse. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres médias, tu le dis toi-même, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas tout ça. Quel est ton regard de jeune femme moderne sur, aujourd'hui, la presse et la littérature, par exemple. Moi, il y a une chose, vraiment, c'est toi qu'on a envie d'entendre et pas moi, mais moi, je suis outrée sur les grandes chaînes généralistes, c'est-à-dire, je te parle BFM, iTélé, enfin, les trucs que les gens regardent. Je te parle même pas de CNews, c'est encore pire, mais je le mets dedans quand même, CNews, BFM, iTélé et même France Info. Quand on parle de littérature ou de culture, c'est indigent. C'est-à-dire quand on pense qu'il y avait encore il y a 20 ans Pivot, ou même il y a la Grande Librairie, voilà, oui, mais qui est très élitiste quand même, où on voit toujours les mêmes visages, je trouve, avec Trapenard. C'est moins curieux que Pivot. Mais quel est ton regard, voilà, à toi, sur justement aujourd'hui médias et littérature, par rapport à ce qui c'était il y a un siècle ?
Je pense qu'on est revenu à la division qu'avait instituée Pierre Bourdieu dans son ouvrage sur les règles de l'art, où il exprime que le champ littéraire et de manière plus générale le champ culturel sont divisés en trois pôles. Il va y avoir l'avant-garde, il va y avoir l'académicien et il va y avoir le populaire. Et que donc l'avant-garde, ça va être l'entre-soi. Le populaire, ça va être une qualité médiocre et destinée au plus grand nombre. C'est ce qu'on appelle l'industrie culturelle, c'est divertir pour le plus grand nombre. Et moi, quand j'étudie, par exemple, les suppléments, ça vient contredire cette division, puisqu'on a de l'avant-garde destinée au plus grand nombre. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a toujours des médias qui s'intéressent à la littérature. On a d'ailleurs des suppléments encore aujourd'hui, hein. On a les cahiers de Libé.
Oui.
On a le supplément littéraire du Figaro, on en a quelques-uns comme ça qui vont être spécialisés, focalisés là-dessus. Mais dans l'ensemble, on ne peut pas se leurrer sur le fait que ces cahiers-là, ces médias spécialisés sont destinés à une certaine élite intellectuelle, à des gens qui ont eu accès à une éducation, etc. Et qui s'est appauvri dans d'autres médias qui ne sont pas destinés à cette élite.
Alors que j'ai l'impression, quand tu parles du Gil Blas ou de l'illustration, que c'était pour ouvrir cette culture au populaire, justement.
Il y avait
une démarche qu'aujourd'hui l'élite, mais même au niveau politique, hein, l'élite reste vraiment de plus en plus calfeutrée, alors qu'à l'époque, il y avait quand même une idée d'éducation populaire, d'ouvrir l'accès à la littérature au plus grand nombre.
Ah, mais absolument. Puis, moi, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais lancé l'émission Doctor Radio. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore venir faire de la radio, parce que c'est de la vulgarisation. Je pense que le milieu universitaire ne doit jamais se cloisonner, qu'on doit être dans une communication constante sur ce qu'on fait, sur ce qu'on trouve, sur ce qu'on cherche. Moi, très souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'on cherche en littérature ? Et c'est pas une question bête. Qu'est-ce qu'on cherche en littérature ?
Oui, bien sûr.
Et le fait qu'on me pose cette question, c'est qu'à un moment donné, il y a un échec dans cette communication. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a plein de tentatives qui dépassent mes modestes participations à la radio. Je sais qu'à Paul Valéry, il y a énormément, par exemple, de colloques, de conférences qui sont ouvertes au public. Donc vraiment, je vous encourage à aller à Saint-Charles, assister à ces conférences, parce que c'est passionnant. On peut poser toutes les questions qu'on veut, c'est gratuit, et il y a des petits fours.
Mais c'est vrai qu'il y a plein d'accès, hein, à Rabelais, avec les rencontres de Rabelais. Enfin, il y a beaucoup de choses où les gens peuvent aller gratuitement. Mais en définitive, pour y aller assez souvent, c'est quand même beaucoup les mêmes personnes, beaucoup de cheveux blancs, beaucoup de retraités
tout
aussi qui
fait.
Y vont.
Et
le grand public, eh ben, on a du mal à le toucher. Quoi,
je veux dire, parce qu'il y a un mépris pour l'attrait de la culture populaire. Ce que le supplément avait bien compris, le supplément littéraire, ça allait publier de l'avant-garde, mais le but premier du supplément littéraire, c'était de divertir. Mm-hmm. Ils le disent partout. Mm-hmm. On veut divertir, on veut amuser le lecteur. Et au fond, tout ça ramène à une conception qu'on a de l'art, de la culture, avec le côté que d'un côté, il y a un art sérieux, et c'est l'art des avant-gardes, c'est le vrai art, c'est celui qui est publié dans le livre avec un grand L. Et de l'autre côté, il y a le divertissement. Mm-hmm. Et le divertissement, c'est nécessairement mauvais. Mm. Alors qu'en réalité, ce ne doit pas forcément être chiant de s'instruire. C'est pas forcément
c'est pas
pénible
devenu,
de se cultiver.
C'est pas devenu chiant, mais c'est devenu marchand. Et la marchandisation n'a pas arrangé les choses.
C'est pas faux.
On va se écouter une petite musique avant de parler de ce que tu vas nous proposer à partir de maintenant, hein, ça, de 2026, sur les ondes, puisqu'on va avoir le plaisir de te retrouver. Tu as choisi pour nous ?
C'est Dancing in the Moonlight. Pour l'anecdote, c'était quand j'ai fait mon année de doctorat à Québec. Je suis partie faire quelques jours à New York. Et c'était la playlist, la bande-son complète de New York. C'était cette chanson. Je l'écoutais en boucle.
Bon, on écoute tout de suite et on se retrouve. Ça, c'est entraînant.
C'est sympa. Hein,
ah, c'est sympa. C'est canadien.
Non, je pense que c'est très américain.
Ah.
Je pense que c'est très américain.
Bon, c'est vraiment parce que c'est toi, parce que les États-Unis, en ce moment, j'ai un peu de mal quand même.
Oui, moi aussi. Moi aussi. Mais il faut bien des exceptions.
Oui, hein, voilà. Il ne faut pas tout mettre dans le même sac non plus. On remercie Aurélien de nous accompagner. Yann, qui n'est pas loin. Et puis, Olivier, qui est très, très, très concentré sur, je ne sais pas ce qu'il fait, du montage, du truc. Il travaille, en tout cas. Ça bosse, voilà. Sous l'œil bienveillant de Yannou. On se retrouve, donc vous êtes bien sur Radio FM+, dans ce 10-10 du mercredi 7, et je suis en compagnie d'Aliénor. Aliénor qu'on retrouve et qui n'était pas venue, qui a fait une pause donc québécoise, si j'ai bien compris.
Tout à fait.
Et quand tu faisais les chroniques avec Rija, tu parlais de quoi ? Moi, j'avais entendu un truc, donc c'était la presse. Moi, c'est l'émission dont je me rappelle bien, c'était l'émission sur les faits divers. Et tu avais parlé d'une période qui, moi, me fascine, c'est-à-dire la période 1880 à Londres, Jacques l'Éventreur et toute la presse qu'il pouvait y avoir.
Oui, c'est vrai. Voilà,
je te disais que mon père était libraire et il y avait à la maison un bouquin sur les faits divers de cette époque-là, tu sais, jusqu'à la bande à Bono, en fait, tout ça. Bien sûr. J'avais cette fascination pour, je me rappelle, la mort de Félix Faure, par exemple, tu vois, dans les bras de sa maîtresse, enfin, pas que les bras, visiblement, mais enfin, bon.
Il voulait être César, il ne fut que Pompée. N'est-ce pas, hein ? Il y a des bons mots dans la presse, hein, on s'amuse bien quand on utilise.
Voilà, cette inventivité-là. Et je trouvais d'abord que tu as une très belle voix et que tu en parlais très bien.
C'est gentil.
Donc c'est vrai que, comme on n'a jamais perdu le contact, on s'écrit de temps en temps et tu nous as parlé d'idées que tu voulais bien faire pour nous, avoir la gentillesse de faire pour nous. C'était quel sujet que tu voulais aborder? Parce que là, on ne va pas parler des faits divers. On va parler des oubliés ou tu nous en dis
les
plus
négligés de l'histoire. Les négligés. Bah, c'est vrai que, oui, j'ai un petit peu tout testé à votre radio. J'avais commencé donc, en faisant des chroniques sur l'histoire des médias, donc, où je parlais pas mal des faits divers. Bon, on pourrait revenir sur les faits divers, parce que je les étudie beaucoup là, en ce moment. J'avais tenté les podcasts, où j'avais fait quelque chose sur l'histoire culturelle des ce qu'on appelle les monstres humains au 19e siècle, avec les freak shows, etc. J'ai lancé l'émission Doctor Radio, qui s'est transformée après mon départ en parenthèse enchantaise, dont on parlait tout à l'heure. Et là, j'avais envie de faire quelque chose qui condense un petit peu tout ça, finalement, avec les négligés de l'histoire. Et puis qui m'intéresse fondamentalement à la fois dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée, qui relève en fait de la micro-histoire. La micro-histoire, c'est quoi ? La micro-histoire, c'est s'intéresser à l'histoire des individus, des anonymes, mais dont la grande histoire finalement vient traverser l'existence en fond. C'est un terme qui avait été inventé dans les années 70 par des chercheurs italiens dans la revue Quadirci. J'ai pas l'accent. Et donc, ça, cette discipline-là, moi, ça me passionne. Je me souviens qu'à Paris, il y a une église où il y a un graffiti sur un pilier dans une église où il y a écrit, c'était quand il y avait eu les communards qui s'étaient retranchés dans cette église. Et le graffiti dit « Vive la République, sinon la mort ». Et en fait, le communard qui avait écrit ça avait manqué de place. Donc, il y a la « Vive la République » et le « QE ». Qui est écrit en tout petit. Et je ne sais pas, ça par exemple, c'est quelque chose qui va beaucoup me toucher. Parce qu'il y a quelque chose de... Je ne sais pas, j'aurais pu faire la même erreur, en fait. Et ça individualise derrière, ça rend l'histoire tellement plus humaine, tellement plus vivante. Donc tout ça est parti de là, parce que j'étudiais donc, dans la presse des noms qui, pour beaucoup, ont disparu. Et quand je m'intéresse à leur biographie, je me rends compte que souvent, c'est des existences individuelles qui sont dans la trajectoire de la grande histoire. Mais qui ont été fauchés à un moment donné, qui ont été oubliés par la postérité. Il y a plein de raisons à ça. Et je voulais parler de ces gens-là. Donc le premier épisode parlera notamment de jeunes poètes qui montaient de plus en plus.
Ils ont un nom, tu m'as dit.
Le groupe des loups.
Oui. Alors j'ai cherché sur Internet. Tu tapes groupe des loups, t'as rien.
Bah oui. Bah oui, oui. Il y a très peu de choses, parce que même s'ils commençaient à obtenir de plus en plus de reconnaissance de la part des grands médias, etc., ils avaient réussi à percer ce plafond de verre de la grande presse. Le problème, c'est que les deux tiers vont décéder pendant la Première Guerre mondiale, qui est une espèce de tragédie absolument effroyable là-dedans, et qui en même temps permet de ranimer le souvenir de la Première Guerre mondiale, en tout cas, c'était mon opinion, dans le fait que, pour nous, la Première Guerre mondiale, émotionnellement, on n'a plus grand-chose qui nous y rattache. On sait qu'on a forcément un grand-père, une grand-mère qui a perdu son père
oui,
ou sa mère.
Moi qui pourrais être ta grand-mère, quasiment. Enfin, ta mère, en tout cas, parce que bon, j'ai une fille de ton âge. Mais oui, ça veut encore dire beaucoup. Beaucoup,
ouais.
Beaucoup.
Mais pour les nouvelles générations, c'est quelque chose... La seconde est encore beaucoup émotionnelle. Mm. Parce qu'on va beaucoup plus l'étudier aussi en classe. Mm. Ah, et qu'il y a quelque chose d'absolument effroyable aussi là-dedans. Donc la première, souvent, on oublie. On oublie, et quand on voit justement ces jeunes qui nous parlent de leur vie de café, qui nous parlent de leurs rêves, de leurs espoirs, sur un ton qui est très intime, il y a quelque chose de très frappant de se rendre compte qu'ils ont tous été fauchés.
Quand tu parles de négligés, par exemple, de cette génération du groupe des loups, il y a un poète émergent, il y a quand même des noms qui sont restés à la postérité ou pas du tout. Ça me rappelle ton bouquin, on pourrait en faire un livre, hein, tu pourrais en faire un livre. Au livre de Titouan Lecoq sur les oubliés de l'histoire, les grandes oubliées de l'histoire,
ouais.
Où elle prend des portraits féminins qu'on a totalement oubliés. Mais il y en a quand même, il y a quand même des gens qui restent. Dans ces négligés, il y a quand même des gens qui émergent. Tu as réussi à en trouver quelques-uns où vraiment ils ont été, alors même plus que négligés, et là oubliés.
Pour les loups en particulier, c'est curieux d'ailleurs, c'est qu'une femme qui va obtenir une certaine postérité, c'est Hélène Seguin. Elle sera reconnue par l'Académie. Alors qu'on va voir que c'est assez rare qu'une femme soit retenue par
l'histoire.
Peut-être
parce qu'elle a survécu à la guerre, justement, parce que c'est une femme, non ?
Oui, il y en a d'autres qui ont survécu quand même dans ce groupe, mais qui n'ont pas obtenu la même postérité qu'elle. Donc c'est quand même effectivement un petit peu curieux. De manière plus large, dans les négligés, leur histoire n'est pas forcément complètement oubliée, mais c'est qu'on ne va pas forcément lui rendre hommage. Je pense par exemple à Laurent Taillade, un anarchiste très provocateur. Alors il a une histoire qui est farfelue, hein, vous verrez ça dans les chroniques. Mais effectivement, on ne se verrait pas avec La République rendre un hommage à Laurent Taillade, qui était violemment anticlérical, etc. De la même manière, on a Violette Maurice, une merveilleuse athlète de l'entre-deux-guerres, qui pendant longtemps, et je crois même encore aujourd'hui, est une des athlètes féminines les plus médaillées de l'histoire.
Elle faisait quoi ?
Tout. Elle faisait du football, elle faisait du lancer de javelot, elle faisait de la course automobile. Course automobile, pour vous donner un exemple, elle a gagné la coupe du bol d'or, où elle a battu 18 hommes. Avec 3 tours d'avance sur les autres.
L'autre fois, il y avait un portrait sur la 5, sur les Jeux Olympiques, et puis celui qui l'a créé, Coubertin, qui était affreusement anti-féministe.
Oui, affreux.
Et je ne sais pas s'il n'en parle pas. Parce que honnêtement, bon, à mon âge, en étant baignée dans la littérature, parce que j'ai été moi-même libraire, tous les noms que tu me donnes là, je n'en connais aucun. Mmh. Ça va être des rencontres que tu vas nous proposer, Aléna.
Ah, bah, j'en suis ravie.
Voilà, c'est des gens, moi je n'en connais aucun.
Bah, pour moi, c'est quelque chose, je pense, qui vient aussi de mes recherches dans la presse, puisque je travaille sur La Belle Époque. Je vais lire des journaux, je vais avoir des centaines de noms. Donc il y a les très célèbres, il y a Maupassant, il y a Zola, il y a Mallarmé, etc. Je les vois passer tout le temps, mais je vois aussi passer plein de gens qui étaient plus ou moins célèbres à l'époque, mais dont on n'a plus aucune idée, genre Jean Richepin.
Si, oui, moi je le connais pas. Pour la poésie, Richepin, c'est tout.
Ah bah déjà, ouais. Mais t'es bien la première à me dire que tu as entendu parler de Richepin.
Ouais.
Alors que, je veux dire, dans le milieu littéraire, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, personne ne connaît Richepin. Alors que Richepin était peut-être encore plus connu que Maupassant à l'époque. Et ça va être des concours de circonstances.
Rend vachement humble sur ces gens qui se pensent vachement importants en ce moment.
Bien sûr.
Et dont il ne restera rien dans 100 ans.
Ah bah, c'est l'idée. D'ailleurs, dans une des chroniques, je parle d'un directeur de journal, Arthur Meyer. C'est le directeur du journal Le Gaulois. Et à La Belle Époque, Meyer, il est tout puissant. Tout puissant. Il décide des élections. J'ai eu accès aux archives nationales où je peux avoir aux correspondances privées de Meyer. Et on voit qu'il va décider qui est le prochain candidat qui va gagner. C'est lui qui choisit.
C'est dingue.
Et Meyer, qui s'en souvient de Meyer ?
Ouais.
Je veux dire, c'était le Zuckerberg de son époque. Ouais. Vanitas, vanitae.
Oui, vraiment. Non, mais c'est vrai que ça remet un peu les pendules à l'heure. Hein, l'église au milieu du village. Enfin, l'église au milieu du village, faut pas trop le. Et donc, une fois par semaine, on va te retrouver. Donc, on vous donnera exactement la matinée où il y aura la chronique d'Aliénor qui sera diffusée. Tu vas en trouver suffisamment ? Oui, il y en a beaucoup, hélas.
Il y a tonnes de sujets. Il y a une profusion. Il y a beaucoup plus de gens qu'on ne connaît pas que de gens qu'on connaît, évidemment.
Bien sûr.
Le plus dur, c'est toujours de trouver, d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à envoyer des messages si vous avez des personnalités comme ça que vous aimeriez voir à la lumière du jour. Je me ferai un plaisir. De faire des chroniques dessus.
Tu te concentres sur la littérature, c'est-à-dire presse et littérature.
Ah non, du tout.
Ou un peintre, par exemple, qui aurait pu avoir une importance.
C'est très, très, très ouvert. Les politiciens, les peintres, les artistes, les écrivains.
Et la période ?
C'est assez ouvert aussi. Je sais que j'ai une chronique de prévue sur un poète du Moyen-Âge. Mais non. Franchement, j'ai voulu rester le plus ouvert possible. Mmh. En réalité, étant spécialiste du 19e siècle, je pense qu'un certain nombre viendront du 19e.
Ouais.
Mais je reste ouverte.
Mais on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise sur un autre siècle.
Tout à fait. Bah, par exemple, l'année dernière, quand j'étais au Canada, j'avais eu l'occasion d'écouter une conférence assez merveilleuse par un auteur québécois qui faisait une enquête sur les auteurs et les artistes queer atteints du sida dans les années 80 à Montréal. Et alors, il avait recueilli tout un tas de témoignages, c'était extrêmement émouvant, notamment par exemple, je pensais à un enseignant d'université qui raconte qu'à cette époque, il voyait donc de longues silhouettes très maigres qui disparaissaient du fond de son amphi, jour après jour. Enfin, il avait le goût de l'image, cet écrivain, donc ça, je sais que j'en ferai nécessairement un sujet.
Bah écoute, on arrive à la fin de ce 10-10, du 7. C'est Aurélien qui nous a accompagnés. Et nous, on va donner vite les dates de tes chroniques. Puis je pense que de temps en temps, on se retrouvera toutes les deux pour parler un peu d'autres choses.
Avec voilà, grand plaisir.
En matinale.
Merci encore de m'avoir invité.
Oh, bah merci, Aliénor. C'est un plaisir de te retrouver. Vraiment, c'est un plaisir. Demain, vous retrouverez le 10-10 avec moi. Et nous rencontrerons Lise Simonetti, qui fait partie du comité du 10 mai. Et on va parler d'un sujet aussi passionnant que de la presse et la littérature. On va parler d'esclavagisme et de la journée du 10 mai qui se prépare avec tous les événements liés à la lutte contre l'esclavagisme, parce que ce n'est pas fini. Merci beaucoup, Aliénor.
Merci à toi.
Merci Aurélien, merci Yann et merci Olivier. Et je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de Radio FM+. D'ailleurs, vous restez avec moi parce que on va partir pendant la Deuxième Guerre, là, entre 39 et 45, avec Pierre Beau pour son livre. À tout de suite.
Radio FM+.
Ce 10-10 vous était proposé par le musée Parcelle 473 à Malbosque, sur les hauteurs de Montpellier. Exposition, ateliers, rencontres avec les artistes, vous avez rendez-vous au musée Parcelle 473 avec le street art, l'art contemporain, en un mot, l'art pour tous.